Donc, Agnès Camus-Viguet, j'ai dit Vig tout à l'heure, excuse-moi. Donc, tu es sociologue et tu travailles aussi au service des études et la recherche de la BPI. Et donc, ben, on va d'abord t'écouter, puis après, on aura un dialogue ensemble avec la salle. Je te laisse commencer. Donc, tu viens nous parler d'études, une étude passée, une étude en cours.
Deux études qui ont été réalisées entre 2012, octobre 2012, et puis juin 2014. Alors, oui. Donc, comme toute étude, oui. Voilà. Donc, comme toute étude, ces deux études sont, enfin, l'étude que j'ai réalisée est partie d'une question, et finalement d'un constat que chacun peut faire. Les écrans sont de plus en plus présents, et aujourd'hui, 75% de personnes sont équipées à domicile, et donc de poste ordinateur, et 82% utilisent Internet sous forme de téléphone, de tablette, etc. Finalement, dans ce contexte, est-ce qu'une offre de formation en bibliothèque, c'est encore pertinent? Est-ce qu'il ne suffit pas de présenter de plus en plus d'écrans dans les ordinateurs? Puisque, comme le soulignait Christophe ce matin, les gens sont équipés chez eux, donc voilà, ça leur semble incontournable d'avoir ça maintenant quand ils vont en bibliothèque. Et puis finalement, on se dit que maintenant, chacun est capable d'utiliser ce type d'outil. Alors, pour apporter des éléments de réponse à cette question, qui peut paraître un peu provocatrice par rapport à, justement, nos questions qui sont les nôtres ce matin, puisqu'on se pose quand même comme des médiateurs, donc j'ai des données qui sont issues de deux enquêtes qui ont été réalisées, l'une par moi-même, et de deux enquêtes sur les ateliers informatiques. Et l'autre, la seconde, par une Anaïs Crinière, une personne qui était une sociologue, une étudiante en sociologie, qui était stagiaire dans le service. Alors, les données qui sont produites, elles éclairent trois points. Hein, c'est l'intérêt des études, c'est de produire des données qui éclairent les questions qu'on peut se poser. Et je vais dégager donc trois points qui me semblent importants. Tout d'abord, un point théorique, qui montre l'intérêt d'une approche en termes de compétences. C'est-à-dire que il y a eu, dans les années 90, les travaux montrent qu'il y a eu beaucoup de questions qui se sont posées autour de la question de la fracture numérique. On constatait que certaines personnes ne pouvaient pas disposer de l'accès à Internet, notamment à l'informatique, alors que c'était des ressources qui étaient devenues absolument incontournables. Sur ce point-là, des recherches ont montré, et notamment les recherches de Pascal Plantard, hein, qui dirige le laboratoire du Marsouin à Rennes, ont montré qu'il était plus intéressant d'aborder les questions en termes d'usage à présent, hein, c'est-à-dire ce qu'on appelle la fracture numérique du second degré. C'est-à-dire qu'en effet, la fracture numérique du premier degré se résorbait, puisque de plus en plus de personnes sont connectées, quoique il y a quand même des différences sur le plan socio-démographique qui persistent. C'est-à-dire plus vous êtes diplômé, plus vous êtes vous occupez un poste de cadre, si vous habitez dans une grande ville, vous avez plus de chances, en effet, de pouvoir accéder à ces ressources. Mais enfin, il y a quand même quelque chose qui se réduit sur ce plan, sur le plan de l'équipement. En revanche, au plan des usages, il y a des inégalités qui persistent. Par exemple, il montrait que pour une même tranche d'âge, entre des jeunes étudiants, des jeunes lycéens qui appartenaient aux catégories aisées de Rennes, de la bourgeoisie de Rennes, et puis des jeunes qui étaient plutôt issus de classes populaires, eh bien, l'usage des réseaux sociaux était différent. Les premiers pouvaient utiliser les réseaux sociaux dans le cadre de travaux qu'ils menaient dans un cadre scolaire, et les autres ne se contentaient, par exemple, se contentaient uniquement de mettre leurs photos de vacances, par exemple. Donc, on voit bien qu'il y a la question de la puissance, de l'efficacité, qui ne se traduit pas de la même façon dans certains milieux et dans d'autres. Les deuxièmes données qui me semblent intéressantes, ce sont les données qui concernent la complexité des représentations qui sont produites sur l'informatique et Internet. Ça apporte des éléments tout à fait intéressants, surtout grâce aux entretiens très approfondis qu'Anaïs a pu faire dans le cadre de ses études, de l'étude. Troisième type de données très important, ça concerne la fonction de socialisation remplie par les ateliers numériques à la BPI. Donc, je vais présenter en fait les deux premiers points, et puis je laisserai le dernier point sur la fonction de socialisation ouvert à la discussion. Je pourrai apporter des éléments, des éclairages en fonction des questions que Franck posera et que vous-même poserez, parce que je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui participent, qui organisent des ateliers, qui auront des éléments aussi à apporter. Donc là, c'est des éléments que j'ai déjà abordés, de l'importance de l'idée de la fracture numérique premier degré, donc centrée sur l'équipement, à la fracture numérique du second degré, sur l'usage, et l'intérêt pour la notion aborder les choses à partir de la notion de compétence qui concerne le niveau des représentations. Hein, quelles idées les personnes se font de leurs propres compétences. Donc Christophe en a déjà parlé ce matin. Aujourd'hui, en effet, 45% des personnes ne se sentent pas compétentes, d'après les données du Crédoc, dans l'usage de l'ordinateur. C'est quand même pas rien.
Ça a des degrés divers.
Oui.
On précisera tout à l'heure.
Oui. Donc, alors, il y avait d'autres données aussi qui semblaient très intéressantes. C'est des données qui ont été produites par des chercheurs, Broadcorn et Valandouk. Donc là, vous avez les références. Là aussi, je vous donnerai accès au PowerPoint pour ceux qui sont intéressés par les références. Ils mettent en évidence qu'il y a trois types de compétences informatiques, en fait, qui sont nécessaires pour se débrouiller avec ces outils aujourd'hui. Il y a tout d'abord les compétences instrumentales, qui concernent un savoir-faire de base, des capacités techniques rudimentaires, mais qui concernent aussi des modes de raisonnement. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement utiliser la souris, c'est aussi se mettre dans l'idée de ce que c'est qu'un logiciel, de quelle façon l'utiliser, de quelle façon se formater finalement à ces outils, parce que c'est vraiment des procédures finalement cognitives qui doivent être mises en œuvre pour s'ajuster à ces outils. Deuxième type de compétences, ce sont les compétences informationnelles. Donc il s'agit de façons d'entrer dans les contenus en ligne, de savoir chercher, de savoir sélectionner. C'est toute la question aussi des repérages sur l'écran et des fameux signes passeurs. Je ne sais pas si certains d'entre vous en ont entendu parler. Signes passeurs que Jeanneret et Souchier ont travaillé, c'est-à-dire ces boutons, ces icônes qui permettent d'accéder au texte. Hein. Et le troisième type de compétences, ce sont les compétences stratégiques, c'est-à-dire que ça va être l'aptitude à utiliser de l'information, à donner sens à ces informations dans sa vie, à en faire quelque chose. C'était l'exemple que je donnais tout à l'heure avec les jeunes qui vont utiliser les réseaux sociaux pour pouvoir en faire quelque chose, pour pouvoir être efficaces sur le plan de leurs études. Donc les données concernant les deux études, il y a eu deux dispositifs à la BPI qui ont été mis en place. Le premier, ça a été mis en place d'octobre 2012 à mars 2013, c'était un dispositif exploratoire. Ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait deux micro-dispositifs dans ce grand dispositif. Il y avait une permanence, c'est-à-dire qu'il y avait un informaticien qui répondait aux questions des personnes qui pouvaient arriver avec n'importe quelle question. J'ai bugué, j'arrive pas à télécharger, mon ordinateur bug, je ne sais pas comment faire, j'arrive pas à télécharger telle donnée, je ne sais pas comment faire un sommaire sous Word. Voilà. Donc c'était assez intéressant, c'était vraiment une ouverture à toutes les demandes. Et le deuxième type de dispositif qui a été mis en place un petit peu plus tard, à partir de décembre, c'était les ateliers informatiques. Donc ça, c'était le premier dispositif exploratoire sur lequel moi, j'ai enquêté moi-même. Et le deuxième dispositif, donc ça a été mis en place plus tard, et la deuxième étude a eu lieu entre le 17 mars et le 25 juin, et ça a été Anaïs Crinière qui a réalisé cette étude. Ce dispositif était mis en place dans le cadre du programme DILIT, Digital Literacy, dont certains, d'ailleurs des formateurs qui participent à ça, sont ici, pour en parler cet après-midi. C'était un projet donc, de lutte contre la fracture numérique, et il y avait donc les ateliers proposent différents thèmes ou sous-thèmes de formation, hein, l'e-citoyenneté, la collaboration, etc. La méthodologie, donc je l'ai dit, qualitative, une vingtaine d'observations. Ce qui est intéressant, donc, c'était que dans le premier cas, dans le dispositif que j'ai moi-même observé, l'animateur tenait une sorte de cahier de terrain, une chronique des formations, donc il a pu vraiment bien noter toutes les demandes des personnes. Et Anaïs Crinière, comme je le disais, a vraiment fait des entretiens approfondis parce qu'elle a elle-même participé à des ateliers en tant qu'observatrice participante. Alors, les profils des personnes qui assistaient aux ateliers ont été notés pendant la deuxième enquête. Donc 124 personnes, donc 53 femmes et 70 hommes. Alors au niveau des profils sociodémographiques, c'est d'abord la première catégorie, c'est des retraités. Et ensuite, il y a eu essentiellement la deuxième catégorie, c'est des chercheurs, des demandeurs d'emploi. Mais il y a quand même une poignée d'actifs, hein, et quelques étudiants. Ce qui est intéressant, c'est que 65% des participants possédaient un ordinateur à domicile et 50% une connexion Internet. Donc on voit bien que là, la question de l'équipement ne résout pas la question de la formation. Alors j'en viens à la question des représentations. Ce qui apparaît, c'est qu'il y a une première tension entre l'attente, la question de l'attente et la question de la pression sociale. Alors, je retrouve mes notes parce que voilà. Pardon. Donc ce qui est intéressant, c'est que tous pensent que Internet vraiment rend de grands services, et ils se montrent tout à fait conscients des possibilités offertes par Internet. Donc là, vous avez un premier verbatim qui indique que c'est l'omniscience à l'échelle humaine. Et tout à la fois, ils indiquent qu'ils sont soumis à une grande pression sociale concernant Internet. Donc il y a une espèce de tension entre le fait qu'à la fois ils pensent que c'est essentiel, on ne peut pas s'en passer, et en même temps ils se sentent vraiment contraints à se former, et c'est décelable parce qu'il y a un vocabulaire, une sémantique vraiment de l'injonction. Alors là, on le voit sous forme de déni. Vous voyez, ils ne nous obligent pas, mais les gens se sentent tenus, obligés. Et puis, ils s'inquiètent parce qu'ils ne peuvent pas. Alors, je lis tout le verbatim. Il ne nous oblige pas, mais les gens se sentent tenus, se sentent obligés. Et puis, ils s'inquiètent parce qu'ils ne peuvent pas. C'est vrai que tout ce qui est administratif, je crois qu'il est sorti une loi comme quoi, administrativement, on est tenu à savoir les choses, même si on n'a pas d'ordinateur. Les choses qui doivent se faire par téléphone, ils ne veulent pas. Ça peut être que par Internet, maintenant. Donc ça, c'est Dominique qui a 60 ans, qui est retraité. Donc c'est intéressant parce que à la fois il y a le fait de dire on n'est pas obligé, mais on se sent tenu, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé, il n'y a pas la loi. La loi, c'est la question de ce qui est accessible à tous. Ça serait, et en effet, il n'y a pas de loi qui oblige à avoir Internet et à cela. Mais en même temps, on est tenu, ça, c'est la question de la norme. Donc la norme, c'est une intériorisation de cette obligation, de cette injonction. Et c'est quelque chose qui est extrêmement insidieux et qui, finalement, a une valeur de contrainte presque plus forte que la loi, puisqu'on l'intériorise et qu'on est soi-même son propre maître. Et il y a l'idée que finalement, donc là c'est vraiment la référence à la norme, de plus en plus on sera obligé de passer par ça, et donc il y a l'idée qu'il ne faut pas se laisser distancer par Internet. Donc la thématique du retard est extrêmement présente dans les entretiens. Si on n'essaye pas d'avancer, de toute façon, on n'avance pas. C'est qu'on recule. Et si on ne stagne pas dans la vie, il ne s'agit pas de stagner dans la vie. Hein. De plus en plus, on sera obligé de passer par ça. Alors, à l'égard de ces représentations qui font d'Internet vraiment un phénomène incontournable et dans lequel chacun est sommé de s'adapter, finalement, quelles représentations les personnes ont de leurs propres compétences ? Ils ont l'idée d'un apprentissage permanent. Et il y a deux principaux lieux d'apprentissage, le travail et les réseaux de proches et de la famille. Alors, le travail, ça n'a pas toujours été le lieu dont on a pu, où on a pu se saisir de cette possibilité de se former à Internet. Hein. Par exemple, il y a une dame qui a 75 ans, qui est retraitée, qui dit « Au début, ça n'existait pas. J'ai cru que c'était une modification des machines. Il y avait des machines qui étaient très perfectionnées. Et je me suis dit, bon, c'est un outil pour les secrétaires. Je ne me suis pas rendu compte. » Donc, cette question de l'adaptation au changement. Et puis aussi, il y a la question de l'inégalité en fonction des métiers. Donc un monsieur qui est magasinier, qui a donc des tâches qui est plutôt opérateur sur des machines, qui dit « je l'utilisais parce que dans mon travail pour le stockage, on a accès à des logiciels de stockage. Mais dire que je savais l'utiliser, je ne savais pas l'utiliser en fait. » Donc là, on voit qu'il y a des trous dans le maillage de la formation, dans le maillage social, qui permettent de maîtriser ces outils. Et il y en a d'autant plus qu'en effet, on est dans le processus de travail, soumis à des tâches qui sont plutôt des tâches d'exécutants. Alors, un autre lieu d'apprentissage, les réseaux de proches et de la famille. Or, en fait, là encore, il y a des éléments qui manquent. Ce monsieur, qui est magasinier, dit que c'est difficile de demander aux gens. Ils ne sont pas forcément toujours coopératifs. On vit dans un monde individualiste. Vous n'êtes pas toujours bien reçu quand vous demandez des informations à quelqu'un. Il y a aussi donc la question des idées qui reviennent très souvent, qui est qu'il va y avoir une formation intergénérationnelle, que les adultes vont pouvoir former leurs enfants ou les plus jeunes. Et bien là encore, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas vraiment dans la réalité. Hein. Donc il y a cette dame qui dit on s'énerve, c'est des conflits, et je n'en veux plus. J'ai parlé à d'autres mamans comme moi. C'est vrai qu'on a l'impression, je ne sais pas si elles le font méchamment, mais elles prennent sur nous l'autorité. Je ne sais pas si j'ai été si dure que ça dans mon autorité vis-à-vis d'elles. Pour peu, on se prendrait une engueulade. C'est pas possible. Alors je préfère ne plus rien demander, me débrouiller. Donc vous voyez, il y a vraiment des enjeux dans les familles qui sont extrêmement compliqués et une sorte d'inversion des rôles qui ne fonctionnent pas et qui peut donc conduire a vraiment un sentiment de son incompétence. Et parfois, ça peut arriver, vraiment, ça peut toucher quelque chose d'extrêmement profond. Et vraiment, les gens peuvent porter un sentiment de honte. Et là, on a ça chez cette dame qui a été interviewée, qui dit « Bon, les gens qui connaissent, on se sent faible quand même. Encore un formateur, une formatrice. Oui, mais demandez aux gens, on ne connaît rien. C'est honteux. Enfin, ce n'est pas honteux. Moi, je dis la honte, c'est quand on ne veut pas apprendre, quand on ne connaît pas et on le cache. » Donc là, en effet, elle dit « c'est pas honteux, en fait, c'est un déni. » On voit bien qu'elle a affaire à ça. C'est en effet la honte. La question de la formation, en fait, il s'agit de demander à l'autre et finalement, on risque quelque chose de soi. Hein. Et là, ensuite, on a un autre témoignage qui est celle d'une personne qui, dans son entourage, a un rôle qui est plutôt celui de l'intellectuel et qui justement éprouve beaucoup de difficultés à se risquer en tant qu'intellectuel, à risquer son image. Donc, on est plutôt culpabilisé. D'après mon entourage, je serais plutôt une intellectuelle. Alors, demander, je ne sais pas faire. Donc, c'est toute cette question de la demande qui, dans l'entourage de proches, ne va pas de soi. Sur cette question, Fabien Grandjean, qui, dans les cahiers du numérique, indiquait que la question de l'équipement à Internet, enfin, de l'équipement en ordinateur, rejoignait la question de la reconnaissance de soi. Et qu'être équipé, justement, c'était une promesse de reconnaissance. Mais cette promesse de reconnaissance, elle est indexée à la possibilité de maîtriser l'équipement. Or, pour un bon nombre de personnes, puisque en effet 45% de personnes ne se sentent pas compétentes, alors après ça va se nuancer, on ira simplement du sentiment d'incompétence partielle, etc., ne pas maîtriser des compétences stratégiques, ne pas pouvoir en faire quelque chose vraiment qui vous donne une certaine puissance, ça se déclinera pour jusqu'à ce sentiment de honte dont la personne fait état. Mais donc, c'est indexé à la possibilité de maîtriser. Or, pour certaines personnes, indique Fabien Grandjean, eh bien, le fait de ne pas maîtriser, ça va conduire certains à une sorte de refus de la formation. C'est-à-dire que préférera laisser de côté ses outils plutôt que de se risquer à ce sentiment, à cette impression de honte parfois, et en tout cas d'incompétence. Donc ça, c'est très important, ça va être toute la question de la médiation et de la remédiation qu'on pourra aborder tout à l'heure, puisque là, je vais en finir avec cette partie, je vais rester sur ces deux premiers points. Je voulais insister sur la question des représentations, pour que vraiment vous ayez une idée claire du fait que, en effet, la question de la formation n'est pas derrière nous, elle n'est pas obsolète. Et puis, on verra de quelle façon les ateliers numériques parviennent justement à apporter un plus concernant ces sujets et concernant la médiation, la pratique et la remédiation, la possibilité d'opérer des déplacements quant à son rapport à ces outils.
Voilà, moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans cette enquête qualitative, il faut absolument que tout le monde la lise, dans ces deux enquêtes, en fait. Moi, je te cite là, sur ton texte, et à un moment donné, tu dis « Certains vivent la société de communication sur le mode de l'exclusion, et beaucoup parmi eux se trouvent à l'écart des sociabilités qui transmettent les codes d'usage de ces outils. » Et nous, justement, depuis quelques années quand même, en médiathèque, on développe un certain nombre de formations autour du numérique. Et puis, on se pose beaucoup de questions. On a la collègue de Toulouse, tout à l'heure, qui posait la question de savoir est-ce que on prend pas la place d'un acteur sur le territoire. Là, en l'occurrence, c'était l'ANPE, au Pôle emploi, maintenant, on dit Pôle emploi, pour former les gens à l'emploi. Et donc, on était resté peut-être sur des formations un peu traditionnelles d'apprentissage du clavier, de la souris, etc. Ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'on voit que vous avez fait deux types d'ateliers, des ateliers de type permanence, où il y a en fait une personne qui a des connaissances. Là, c'était un informaticien, c'était lié à la BPI, parce que vous avez cette personne. En général, dans les bibliothèques, il y a un certain nombre de personnes qui se forment pour répondre à ces questions. Il y a la question du « je ne sais pas faire » que les gens se posent, mais il y a aussi la question du « je ne sais pas faire » que se posent aussi les bibliothécaires quand ils sont formateurs. Et ça, c'est super important, parce que si on veut conduire des politiques de médiation numérique, là, je parle de Strasbourg, mais on est tous dans ces problématiques aujourd'hui, il faut qu'on se pose ce genre de questions. Et moi, en lisant cette enquête, je me disais, nous, en gros, ce qu'on veut, c'est que depuis pas mal de temps, on veut aller vers une autonomie de l'usager, etc. Et en fait, on voit dans les enquêtes que Christophe nous a présentées, ou ce que j'ai lu dans vos enquêtes, c'est que l'usager, lui, ce qu'il recherche, c'est plutôt aller vers de la familiarité, en fait. Il cherche un endroit où il peut parler à quelqu'un qui ne va pas le juger. Je crois que c'est super important. Donc peut-être tu peux nous amener d'autres éléments par rapport à ça.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a toute la question du regard du formateur qui va être extrêmement important. La personne peut déployer tous ses problèmes, elle peut dire voilà, j'en suis là. Ça va être accueilli et il va y avoir un regard, et les personnes sentent ça. Sont extrêmement reconnaissants de pouvoir être regardés d'une autre façon, que leur incompétence, donc qu'elles ressentent plus ou moins de façon douloureuse en fonction des individus, puisse être accueillie. Donc ça, c'est pour les personnes qui ressentent ça de façon quand même plus forte, et il y a quelque chose de très dévalorisé. Là, il y a une valeur qui va pouvoir être donnée en plus, et aussi dans le groupe. Certaines personnes arrivaient en disant voilà, je me trouvais nulle. Ben, finalement, je vois que dans le groupe, il y en a qui sont encore moins bons que moi. Donc voilà. Et il y a des réseaux qui se constituaient, de personnes qui se retrouvaient, etc. Donc ça, c'était vraiment extrêmement important. Ça, c'était pour la partie des personnes qui sont les plus en situation de fragilité par rapport à ça.
C'est cela que tu appelles la fracture du second degré.
La fracture cette
notion.
Non, la fracture du second degré, c'est une notion qui a été apportée par Plantard, qui disait que finalement la fracture du second degré, maintenant c'est plus la fracture numérique, c'est plus l'équipement, c'est l'usage. Mm-hmm. Donc c'est ça la fracture du second degré. Mais je dis non, dans les ateliers informatiques, il y a toute cette partie de gens fragiles, etc. qui y est. Mais il y a aussi, et ce qui était très intéressant dans les ateliers, dans la permanence, c'était que, comme c'était ouvert à tous, là, il y avait des gens qui venaient, qui avaient simplement un problème technique, qui n'était pas particulièrement... Bon, pour qui le sentiment d'incompétence était très limité. Il n'y avait pas, tout ce processus qui, après, nécessite une remédiation. Il faut bien différer. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont à la fois des lieux de médiation. On pratique. On a besoin de pratiquer, on a besoin de en permanence, finalement, réactiver des savoirs, parce que c'est très compliqué, ces outils. Il y a une épaisseur de la technique, après, c'est vraiment quelque chose qui a l'air simple. On est censé le maîtriser, on est censé surfer, etc. En plus, avec toute l'idéologie qu'il y a autour de ça, toutes ces images dans lesquelles on est baigné. En réalité, c'est quand même complexe si on veut vraiment pouvoir les utiliser de façon efficace, comme ça vous est demandé dans le cadre du maintenant, pour trouver un travail, etc. Enfin, faut pouvoir mettre son CV sur LinkedIn, faut pouvoir, etc. Donc, il y a tout ça. Donc, les gens ont besoin d'ateliers pour pratiquer. Ça, c'est la médiation qui est extrêmement importante dans les bibliothèques. Et puis, il y a toute la dimension de la remédiation, qui là est encore autre chose, qui concerne les personnes plus fragilisées par rapport à ça, et finalement, pour lesquelles il faudrait une formation spécifique pour les formateurs, parce que là, il y a quelque chose d'assez lourd, assez, bon, qui est très gratifiant, mais voilà, qui est un peu, peut-être un peu compliqué.
Puis c'est justement ça, peut-être le plus difficile à mettre en place, parce que moi, je trouve ça vraiment intéressant, la notion de permanence, mais du coup, ça pose la question de la formation professionnelle et de ne pas réserver cette permanence à juste quelques personnes dans la bibliothèque qui seraient, on va dire, étiquetées médiateurs numériques, mais ça pose la question. En fait, les gens, là, ce qu'on voit dans ton enquête, c'est que ils veulent une réponse immédiate. Ils veulent pas de blabla, ils veulent pas de l'histoire de l'Internet. Ils ont un problème, ils veulent tout de suite le résoudre, quoi. Et donc, nous, ça nous pose des questions en termes d'organisation. Est-ce qu'on est capable d'assurer des types de permanence comme ça, de manière régulière, pour être à la disposition? Et à la fois, on voit bien que dans les autres pays européens, c'est quelque chose, justement, peut-être pour conquérir des nouveaux publics, c'est une réponse qu'on pourrait apporter.
Oui, sur la question des demandes, justement, ateliers.
Il va y avoir une question après.
Je réponds juste deux secondes. C'était 26 sur 100 demandes, sur 100 requêtes, hein, ça a été comptabilisé, donc uniquement pour la permanence. Hein. 26 relevaient de la demande de dépannage. Donc, c'est quand même pas... Et la plupart, les 67 sur 100 relevaient d'une demande de formation. Mais souvent, on pouvait arriver à la demande de formation par la demande de dépannage. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'effectivement, prendre les gens là où ils en sont, les accueillir, quoi, vraiment, avec toute leur...
Il y a une question dans le fond. Je te demande de te présenter.
Je pensais y échapper. Priscilla Winding, médiathèque Malraux. Au fond, enfin, je ne veux pas faire du hors sujet, mais au fond, la question, c'est peut-être pas tant le numérique qui est un gros symptôme que le rôle des bibliothèques qui essaierait de décomplexer aussi les gens par rapport à l'accès à la connaissance tout court. Parce que moi, ce qui me frappe, c'est la peur de l'échec en termes d'apprentissage. Et on n'a pas cette culture-là, du moins en France, d'apprendre sans honte. Les gens ont l'impression qu'il faut qu'on sache, point barre, il n'y a aucune excuse. Et au-delà du numérique, qui est une forme de gros symptôme, eh bien, au fond, ce n'est pas plutôt une histoire de présenter la bibliothèque comme un lieu où on peut aller sans honte demander et apprendre, que ce soit par rapport aux pratiques numériques ou complètement autre chose.
Véronique.
Oui, tout à fait d'accord. Je répondrai peut-être à... Enfin, je sais pas si... dire quelque chose, mais
je vais y répondre.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et en effet, il y a l'idée que on peut apprendre et que c'est pas honteux, et d'où cette idée de remédiation qui est que, dans le domaine dans lequel j'ai enquêté, qui est que la remédiation, ça permet de déplacer le rapport au savoir, c'est-à-dire il y a des gens qui étaient complètement fâchés, qui s'étaient exclus eux-mêmes, qui peuvent retrouver le chemin d'un apprentissage. Parce que pour pouvoir apprendre, en effet, il faut ne pas se percevoir trop comme un moins total. Il faut, parce que sinon, on ne peut pas avoir un peu de plus, on ne peut pas acquérir du plus s'il n'y a pas de sujet. Donc là, c'est un lieu où ils peuvent retrouver... une construction de soi, enfin s'engager dans la construction de soi et dans l'apprentissage, commencer à accumuler un peu.
Véronique.
Oui, pardon. Véronique Poyant, bibliothèque du Chesnay, dans les Yvelines. Moi, je reprends tout à fait ce que vient de dire la collègue précédente. Ce que je me disais aussi, c'est que ce serait peut-être bien qu'on définisse nos champs d'intervention, parce qu'on ne peut pas tout faire non plus. C'est vrai que nous arrive beaucoup, beaucoup de... un peu toutes ces problématiques différentes. Et là, je pense qu'il faudrait vraiment qu'on travaille un peu plus les partenariats. En gros, il existe des services pour traiter des services, des pôles emploi ou des services au niveau nationaux, municipaux, qui seront là pour aider les demandeurs d'emploi. on a quand même beaucoup de relais et peut-être qu'on n'utilise pas assez ces partenariats et on pourrait être juste la porte d'entrée, débroussailler les problématiques et ces fractures numériques, quel que soit le niveau. Et c'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec vous, on les voit aussi bien au niveau technique qu'un peu plus comme lieu d'échange. Il y a un vrai besoin de lieu d'échange autour de ce que c'est qu'Internet, ce qu'on peut y faire, et puis dédramatiser, mais après qu'on puisse renvoyer sur nos territoires à des services qui sont là pour ça et qui ont l'expertise qu'on n'a pas forcément. Voilà.
Oui, je dirais oui, mais en même temps, si ils ont trouvé un lieu d'accueil dans une bibliothèque avec un animateur spécifique, etc., là, il y a un lien qui se noue. Et donc, renvoyer à un autre lieu, c'est peut-être un peu dommage. Enfin, en effet, on ne peut pas tout faire, mais on peut, pourquoi ne pas assumer cette mission de médiation au sens fort, au sens vraiment de permettre que se rejoue un lien à ces outils et une inscription dans le lien social. Enfin, c'est aussi la fonction des institutions. Donc pourquoi ne pas s'autoriser ça? Oui. En effet. Oui.
Moi, je te rejoins là-dessus parce qu'en fait, effectivement, on ne peut pas tout faire. Donc, il va falloir qu'on série un peu les problèmes et nos champs d'intervention. Je crois que ce qui est important, c'est effectivement, tu as dit à un moment donné, il y a des acteurs sur le territoire. Je crois qu'on verra ça dans la table ronde cet après-midi. Hein. Sur Strasbourg, on développe, il y a un maillage fort de différents acteurs. Il y aura la personne du Shadoc hein, qui va être un futur établissement à côté de la médiathèque Malraux qui va travailler sur toutes des dimensions Fab Lab, des choses collaboratives. Moi, ce que je trouvais intéressant dans l'enquête aussi, c'était, j'avais relevé une expression, c'est « s'asseoir à côté ». Et pour les gens dans la salle là, qui pratiquent les formations numériques depuis des années, enfin, je sais pas, il y a 15-20 ans qu'on a commencé à travailler sur le web, à faire des formations, on était très, très, très didactique, très vertical, etc. Et je pense que Rodrigue, tu me contrediras pas, mais de plus en plus, on est en train de travailler sur des formations participatives, collaboratives. Et là, en fait, on suit aussi le mouvement général de la société. Donc, il faut qu'on mette tous ces éléments en regard pour proposer une offre vraiment variée, diverse, etc. Il y a deux questions, alors je ne sais plus dans quel ordre. Honneur à madame.
Bonjour, donc je suis Nadine Cormeret, je travaille à la médiathèque Gao Xinxian qui a un axe auto-formation dans le réseau La Bibliothèque à Saint-Herblain. Donc on a fait le choix en fait d'avoir des rendez-vous individuels pour dans le cadre de l'auto-formation, c'est ce qui fonctionne le mieux, où on essaye de prendre en compte les besoins de l'usager et d'y répondre. Alors effectivement, sans être trop dans le dépannage, parce que là on est un petit peu, parfois mis à mal. Et par ailleurs, pour répondre à la question de notre place dans la recherche de l'emploi, on a donc établi un partenariat avec une maison de l'emploi qui est juste à côté en fait, de la médiathèque. Et là, on a essayé de voir comment on pouvait être complémentaire dans nos services, et notamment en établissant donc un projet pour 2015 sur un parcours pour le public en recherche d'emploi, d'appropriation en fait, des outils et du matériel qu'il y a à la médiathèque. Donc en leur permettant en fait de visiter la médiathèque, d'avoir des rendez-vous individuels pour se former et aussi pour se retrouver donc entre personnes dans cette même recherche, et également en délocalisant un atelier de la maison de l'emploi à la médiathèque. Donc c'est pas encore en place, la mise en œuvre est pour 2015, mais voilà, on a essayé d'être complémentaires dans nos services.
D'accord, très bien, merci. Monsieur
Lucien Pavilla, collègue de Martinique. Je n'ai pas lu votre étude. Peut-être que je trouverai la réponse à ma question là-dedans. Mais vous avez parlé de trois compétences. Il y en a une qui a retenu mon attention, la compétence stratégique. La question que je me pose, comment le bibliothécaire, en tant que formateur, peut donner une compétence stratégique aux apprenants ? Elle est toute simple. Parce que si j'ai bien compris, la compétence stratégique, c'est donner du sens. Donner du sens à son, au contenu, à l'information qu'on a trouvée.
Oui.
Je ne vois pas comment le bibliothécaire formateur peut donner du sens, peut apprendre à donner du sens à quelqu'un qui aurait trouvé une information, sauf si je n'ai pas bien compris votre démonstration.
Bon, oui, alors en effet, ce n'est pas le bibliothécaire qui peut donner du sens, c'est l'usager qui va trouver un sens à ce qui, à cette pratique. C'est-à-dire que en venant, en fréquentant ces lieux, en venant se former, en acquérant d'abord des compétences instrumentales, des compétences informationnelles, progressivement, il va se saisir de ces utilisations et les faire entrer dans un usage. C'est toute la question des filières d'usage qui a déjà été travaillée en sociologie des sciences et des techniques. Et en faire quelque chose qui soit son usage à lui, la question de l'appropriation. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'une compétence stratégique va pouvoir être mise en place. C'est-à-dire, pour reprendre l'exemple que je donnais des jeunes lycéens qui ne comprenaient pas qu'en fait, ils pouvaient utiliser les réseaux sociaux aussi pour travailler. Voilà, c'est au fil de la fréquentation d'un atelier, de la rencontre avec d'autres, que les usages vont pouvoir se diversifier. Et d'ailleurs, c'était une des personnes disait ça, une des personnes qui fréquentait l'atelier disait bien, ah oui, ça me donne des idées, ça me, voilà, j'en fais quelque chose, j'en fais ma chose. Ça va devenir sa chose, qui lui, comme beaucoup d'autres usages.
Une autre question, oui. Il y a plusieurs questions. Alors, il y avait monsieur, je crois. Alors, qui était en premier.
En croisant cette présentation...
Vous pouvez vous présenter ?
Oui, Paulin Chevillon. Donc je travaille à l'Université de technologie de Belfort-Montbéliard et je suis informaticien, donc je ne sais pas si je dénote un peu dans le public. Je travaille
c'est
à la DSI.
Non. C'est bien. Je
fais le parallèle parce que je ne suis pas dans une collectivité locale, mais on a une problématique à l'université qui est celle d'établir aussi un nouveau modèle de gouvernance du numérique. Et les métiers se croisent et puis il y a une nouvelle coordination qui se met en place entre bibliothèques, informaticiens, les cellules TIS. Et il me semble qu'au niveau collectivité, c'est un peu la même chose. Et en fait, ce que je constate, surtout que le rôle des bibliothèques tel qu'il a été présenté, il est extrêmement important au niveau social. Par contre, on est aussi dans un contexte où il y a une diminution des moyens. Alors, si on croise ça avec le fait que les bibliothécaires ne sont pas informaticiens, ils ne sont pas a priori formés pour accompagner tous les utilisateurs qui sont en demande. Ça me paraît évident qu'il faut mettre en place des passerelles. Mm-hmm. Et donc, peut-être qu'effectivement, si la bibliothèque est un lieu naturel d'accueil, peut-être que justement les autres structures doivent venir intervenir en bibliothèque. Mais est-ce que c'est finalement encore aux bibliothécaires d'assumer tout ça, ou est-ce que c'est aux informaticiens de se transformer en bibliothécaire? Je crois qu'on ne peut pas répondre à cette question si on n'essaie pas de chercher un peu ailleurs la solution et donc de décloisonner. Mais cette question, si on commence à se la poser qu'à l'intérieur des bibliothèques, on a déjà perdu d'avance, quoi. Et donc c'est pour ça que les politiques, que ce soit au niveau de l'université ou au niveau local, doivent vraiment reprendre la main et puis mettre en place une véritable stratégie et travailler la gouvernance de ces questions numériques. Voilà, mon humble avis. Donc, c'est pas vraiment une question, c'était plus
Merci,
une synthèse.
Je suis d'accord avec vous. En effet, faut établir des collaborations.
Moi, je veux juste répondre par rapport à ça. Je pense qu'il faut effectivement, comme on disait tout à l'heure, on peut pas tout faire. Il faut vraiment qu'on apprenne à travailler ensemble. C'est vraiment la mutation vraiment importante qu'on doit faire dans les collectivités locales. Moi, je vois quand on fait par exemple un atelier Wikipédia à la médiathèque Malraux, ce qui est intéressant dans ce type d'atelier, c'est que les gens, en fait, ils viennent pas chercher simplement de la compétence technologique. Et donc, si on me disait, maintenant, c'est les informaticiens qui font la formation uniquement, je pense qu'on court le risque de ramener vers l'aspect technologique de tous ces appareils, etc. Et je pense qu'il faut plutôt qu'on on réfléchisse en termes de projets. On sait faire ça. Quel est le sens de nos projets? Quels sont, quand on fait de l'action culturelle, quand on fait tous les projets d'animation que nous menons, on essaie de que le numérique soit une part, un outil, quelque chose qui va apporter du sens, etc. Et je crois qu'il faut qu'on travaille dans ce sens-là. Enfin, quand on fait Wikipédia, en fait, on se rend compte que les gens, ils savent à peu près utiliser l'encyclopédie techniquement, etc. Ils expriment tous la même chose, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas envie de faire ça tout seul chez eux, sur leur écran. Et du coup, la bibliothèque devient un lieu de sociabilité, un lieu de rencontre, etc. Je crois que c'est important. Il faut qu'on travaille dans tous nos domaines pour... voilà, les enquêtes montrent bien qu'on a quand même de la marge là. On a pas mal de choses à travailler et voilà, je trouve ça intéressant. Arsène, il y avait une question.
À nouveau Fleur Bouyane, donc des bibliothèques de Toulouse. Une question très précise. Moi, j'entends au quotidien des demandes surtout de seniors qui veulent apprendre entre eux, c'est-à-dire qui ne veulent pas apprendre avec des demandeurs d'emploi, des personnes qui n'ont pas le même âge qu'eux. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez entendu ou vu dans vos enquêtes, ouais. Et qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, moi, je n'ai pas eu ces échos-là dans mes enquêtes. Il faudrait demander aux personnes qui s'occupent des ateliers numériques aujourd'hui si c'est des éléments qu'ils ont pu recueillir. Je ne sais pas. François, par exemple, non? J'ai jamais entendu parler de ça.
Jamais entendu parler de cette...
Oui, c'est vrai. Ce que remarque Christophe, c'est qu'il y a une homogénéité de tranche d'âge, même des retraités.
J'avais relevé une phrase.
Pas les autres.
Oui. J'avais relevé une phrase quand même dans votre document. Ah. L'animateur s'interroge sur la pertinence de conditions de groupe de niveau.
C'est l'animateur. Ce
oui, mais du coup, ça rejoint, non? C'est pas la question.
C'est pas l'animateur. C'est de l'âge, voilà. Oui. Alors,
en effet. Mais est-ce qu'on doit favoriser
oui,
ça
enfin oui, je vous en prie. Oui, présentez-vous. Oui, vous pouvez vous présenter parce que c'est important.
Vous vouliez parler
Bonjour, c'est Judith ici. Et je vais vous donner un exemple de comment on fait à Idea Store. Nous, on a à chaque Idea Store un groupe de gens âgés qui vient. Trois fois par semaine. Et c'est eux qui ont la direction de ce groupe, eux-mêmes. Alors, s'ils veulent faire un apprentissage de numérique ou je ne sais pas quoi, c'est à nous d'avoir les moyens de les soutenir à le faire. Mais ça vient d'eux. C'est pas nous qui disent « il faut que vous... » Ça vient toujours de eux-mêmes. Et aussi, moi, j'ai lu une étude à propos de ça et je vais chercher pendant le déjeuner pour l'article et je vais vous le donner aussi. Pour que, j'espère que ça va être traduit en français, mais je ne sais pas. Mais en tout cas, même si c'est en anglais, peut-être que ça vaut le coup de le lire.
Madame avait une question.
Bonjour, Florence Delaporte et Clara Quitaine. J'avais une question concernant les autres pays et la façon dont ils se situent en ce qui concerne la médiation, parce qu'il semblerait que dans l'Union européenne, il y a beaucoup de pays qui, dont dans les bibliothèques, on accompagne les lecteurs, par exemple pour des ateliers de CV ou de recherche d'emploi. Et en France, c'est vrai qu'on entend beaucoup, il y a des gens pour ça, on ne peut pas tout faire, on crée des partenariats. Alors, si je devais trouver des arguments pour convaincre des bibliothécaires d'aller vers cet accompagnement, qu'est-ce que j'aurais comme argument? Par exemple, comment se situent ceux des autres pays par rapport à ça? Puisqu'ils le font, quels sont leurs arguments? Quel est pour eux le rôle social de la bibliothèque, puisqu'ils considèrent qu'ils peuvent le faire? Est-ce que je suis claire?
Oui, Donc moi, en fait, l'étude concernait la France. Je n'ai pas d'éléments sur les...
Christophe.
Voilà, Christophe peut peut-être dire quelque chose, s'il a des éléments. Oui. Oui. Ah,
alors, tu
parfaitement.
Julie t'en parle cet après-midi.
Voilà, donc vous aurez des éléments alors, de réponse cet après-midi.
Il est 11h54 sur mon téléphone, mais je crois qu'il est plus tard, en fait. Il reste deux questions. Et puis,
alors, une question qui me semble complète un peu les interventions précédentes. Donc, Arsenotte, médiathèque André Malraux. Les résultats d'enquête qui ont été communiqués, c'est vrai qu'on a été orientés vers les publics, ce qui se comprend très bien. Mais en définitive, je trouve que un des résultats de ce matin, notamment sur les compétences, donc c'est un résultat qui a fait sourire par rapport au faible score obtenu par les bibliothécaires en France. Par contre, pose quand même une question, je pense, importante et, disons, complète peut-être la question qui vient d'être posée. C'est finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas faire un travail d'enquête orienté vers les professionnels des bibliothèques autour de ces outils ? Parce que le malaise dont on parle auprès de notre public ou qu'on constate auprès du public, mais je crois qu'on le constate aussi dans les situations professionnelles. Et ça pourrait être peut-être un des leviers, en tout cas, de réflexion aussi sur l'intervention de partenaires extérieurs et les secteurs dans lesquels on peut, nous, réellement s'investir et construire des projets, et puis peut-être d'autres secteurs où il faut dessiner des périmètres, où on a besoin vraiment de compétences extérieures. Donc, je ne sais pas s'il y a déjà eu, alors il y a déjà eu des enquêtes, notamment au sein de notre collectivité. Il y a eu un travail qui a été fait, une enquête auprès de l'ensemble du personnel sur l'usage des outils par les professionnels. Mais est-ce qu'il y a eu des enquêtes à l'échelle nationale, voire internationale, dans ce domaine où...
Récemment, pas que je sache, mais en effet, un projet, pourquoi pas.
Une future enquête. Et une dernière question, peut-être. Il restait combien de questions ?
Il n'y en a plus.
C'est fini ? Oui. Vous avez faim. Voilà. Voilà. Donc, on est à l'heure. Hein, voilà. Donc, on vous donne rendez-vous pour 13h30, sans faute. Le déjeuner est libre. Merci à vous.